Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Léa Baron. Cette semaine, Escale s'intéresse aux jeunes migrants et aux flux migratoires liés au changement climatique. Ces deux thèmes ont fait l'objet d'une conférence en mai au siège de l'UNICEF à New York. Une conférence organisée lors du Global Migration Group Symposium qui a réuni pendant 2 jours à l'ONU différentes organisations et institutions. Des chercheurs étaient également invités pour présenter les résultats de leurs études. Lors de cette conférence, les experts ont tour à tour montré que les conséquences des changements climatiques, comme la montée des eaux, les tempêtes ou encore les sécheresses, peuvent en effet entraîner ou accentuer des flux migratoires. Un constat toutefois nuancé par Antoine Pécou, il est spécialiste du programme Section Migration Internationale au sein du secteur des sciences humaines et sociales de l'UNESCO à Paris. Selon lui, ces migrations ne sont pas seulement liées au climat, mais peuvent aussi être motivées par les conditions socio-économiques ou politiques d'un pays.
Le thème d'aujourd'hui, c'était notamment les migrations liées aux problèmes environnementaux, le changement climatique. Depuis quand on s'est penché sur ces changements climatiques qui avaient une influence sur les flux migratoires ?
Les recherches sur les migrations ont toujours tenu compte des facteurs environnementaux. On sait très bien que chaque fois qu'il y a eu des sécheresses, par exemple, dans le Sahel, énormément de gens sont devenus mobiles à cause de ce genre d'événements environnementaux. Mais effectivement, l'agenda international autour du changement climatique, qui date grosso modo des années 80-90, a donné un nouvel éclairage, si vous voulez, à cette question du rapport entre environnement et migration.
Le changement climatique est en marche, donc on constate déjà des flux migratoires qui sont dus au changement climatique. Quelles sont les régions les plus touchées dans le monde ?
Les régions où c'est le plus évident, c'est les régions qui sont situées à vraiment quelques centimètres au-dessus du niveau de la mer, notamment les îles du Pacifique Sud, qui beaucoup d'entre elles sont situées à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer, et le changement climatique et l'élévation du niveau des mers peuvent rendre une bonne partie de ces îles inhabitables. C'est pareil dans certains deltas, comme le delta du Nil ou le delta du Bangladesh, où les populations vivent dans des zones très peu surélevées par rapport au niveau de la mer. Donc là, effectivement, on a des populations qui sont directement exposées. Un autre cas de figure, c'est le déplacement de personnes liées à des phénomènes comme les ouragans ou les tornades. Certaines personnes font le lien au changement climatique et l'accroissement du nombre et de la violence de ce genre d'événements climatiques soudains. Et donc effectivement, ça crée d'énormes problèmes en termes de population déplacée. L'environnement est plutôt un facteur aggravant par rapport à d'autres contextes. Très souvent, les problèmes environnementaux rendent les problèmes économiques plus aigus qui déterminent les migrations. Donc en fait, les gens migrent toujours pour des raisons économiques, sauf que peut-être derrière ces raisons économiques, il y a des raisons environnementales, puisqu'il y a toute une série de facteurs intermédiaires, socio-économiques, politiques, de gouvernance, de démocratie même, qui permettent ou non aux populations de s'adapter au changement climatique.
On évoquait pendant la conférence qu'il pouvait y avoir une différence entre réfugiés environnementaux et migrants environnementaux.
Au début, effectivement, beaucoup de gens ont utilisé le terme de réfugiés parce que leur idée, c'était que lorsqu'on est confronté au changement climatique, on n'a pas le choix, on est obligé de partir de la même manière qu'une personne qui est confrontée à un conflit armé ou à une persécution politique est aussi obligée de partir. Donc, le problème ensuite, c'est que le terme de réfugié a une définition très spécifique en droit international liée à la Convention de Genève et au travail du HCR en la matière, au commissariat aux réfugiés. La Convention de Genève ne mentionne jamais les facteurs environnementaux. Donc, stricto sensu, on ne peut pas parler de réfugié environnemental. Et donc, il y a de plus en plus de désaccords avec l'utilisation de ce terme. Aussi parce qu'il implique une vision assez déterministe des choses où les gens seraient obligés de partir alors que la plupart du temps on se rend bien compte que la migration est une stratégie parmi d'autres. Parfois les gens migrent à l'intérieur de leur propre pays, donc ils ne sont pas des réfugiés puisqu'ils ne passent pas une frontière internationale. Et donc en fait les cas de figure sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus disons nuancés, si bien qu'effectivement on parle de moins en moins de réfugiés environnementaux et de plus en plus de migrants environnementaux.
Est-ce qu'on peut parler d'un cercle vicieux en quelque sorte ? Parce qu'on a vu plutôt que beaucoup d'immigration se dirige vers les villes, donc ce qui accroît l'urbanisation, mais qui dit urbanisation dit pollution, donc peut-être renforcer le changement climatique. Est-ce que c'est pas un cercle vicieux qui s'enclenche finalement ?
Effectivement, on a beaucoup parlé jusqu'à présent des facteurs environnementaux comme cause des migrations, mais c'est aussi une conséquence. C'est complètement vrai que les migrations urbaines et l'accroissement de la taille et de la densité de population dans les villes crée de nouveaux problèmes environnementaux, ou du moins rend des problèmes environnementaux encore plus sévères. D'un autre côté, il faut aussi voir que le fait d'aller vers la ville permet en général de diversifier les sources de revenus. Enfin, une famille qui vit dans une zone rurale n'a pas beaucoup d'autres manières de vivre que l'agriculture, et donc elle est extrêmement exposée au changement climatique, alors que les gens qui vivent en ville peuvent généralement plus facilement faire avec les changements climatiques, en reste qu'ils ont accès à davantage d'opportunités économiques. Mais c'est complètement vrai que la migration vers les villes peut très bien accroître les problèmes environnementaux plus qu'autre chose.
Qui sont ces migrants ?
Donc, je pense que c'est très difficile de dire quel profil des migrants est lié aux migrations environnementales. C'est évident, par exemple, que dans le cas d'une île qui disparaîtrait en raison de l'élévation au niveau de la mer, tout le monde doit partir. Cela dit, c'est un cas de figure très particulier. Dans d'autres cas de figure, comme par exemple les désastres climatiques, une tornade, un ouragan, ou ce genre d'événements, en général, ce qui se passe, c'est que ce sont les populations les plus vulnérables qui sont le plus amenées à partir, puis ce sont elles qui habitent dans des quartiers qui sont souvent les plus fragiles, les moins bien construits, les plus densément peuplés, donc là où il y a le plus de dégâts. Et donc effectivement, on voit souvent des distinctions en termes de classe et de richesse des migrants. Souvent, ce sont les plus pauvres qui sont les plus affectés. Mais aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que migrer est une entreprise coûteuse. Enfin, partir, quitter son pays requiert un investissement. Et donc très souvent, les gens les plus pauvres sont très touchés par le changement climatique ou par les désastres, mais n'ont pas les ressources pour partir. Si bien qu'on observe souvent des migrations internes où les gens se déplacent de quelques kilomètres, voire quelques dizaines, centaines de kilomètres, mais restent dans leur propre pays. Et ensuite aspirent à revenir là où ils étaient, puisque c'est là qu'ils ont tout leur bien et peuvent difficilement se permettre de partir durablement.
Sous le mesurier est délégué de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle participait également à la conférence. Selon elle, les variations climatiques ou les catastrophes climatiques n'engendrent pas le même type de migration.
La Croix-Rouge a constaté que différents types de populations migrent pour de courtes périodes, pour des raisons saisonnières, et puis pour de plus longues périodes, pour des raisons économiques. Alors, les migrations de courte durée sont-elles liées à des désastres environnementaux ? Sur le moyen terme, nous notons plus de migrations saisonnières, en particulier les populations pastorales en Afrique, qui migrent avec leurs troupeaux en fonction des saisons de pluie ou des périodes de famine. En ce qui concerne les questions d'environnement, on a remarqué à la fois une intensité et une fréquence plus grande des inondations, des ouragans et de ce type de catastrophes naturelles.
Et je voulais savoir qui sont ces migrants, sont-ils jeunes ou pas ?
Nous avons remarqué qu'ils sont en majorité jeunes. Selon les chiffres dont nous disposons, les 18-30 ans sont prédominants et c'est aussi ce que nous avons noté dans nos travaux.
D'autres responsables d'organisations non gouvernementales, il est pour l'instant difficile d'évaluer les conséquences du climat sur les flux migratoires. C'est notamment le cas d'Olivier Fénérol. Il est consultant international pour la protection de l'enfance au sein de l'ONG Terre des Hommes, une association qui vient en aide aux enfants partout dans le monde.
Pour l'instant, il n'y a pas de projection stratégique sur les changements climatiques. On sait évidemment que de nombreuses régions vont être touchées par les changements climatiques et il y aura certainement une intensification des migrations, mais ça ne changera pas forcément la stratégie. C'est-à-dire que nous, on travaille sur des réponses qui sont des réponses de protection, quelles que soient les raisons qui poussent les enfants à bouger. Et par contre, on ne travaille pas sur le changement climatique, on ne cherche pas forcément à avoir une action sur l'environnement. Nous, on se contente de la protection des enfants. Alors que les enfants sont réfugiés pour des conflits politiques ou pour des catastrophes naturelles, pour des questions de pauvreté économique ou par rapport à des traditions culturelles, c'est pas forcément ce sur quoi nous, on va particulièrement travailler. Mais on sait très bien que bien sûr, les changements climatiques se font assez menaçants sur certaines régions, notamment l'Afrique de l'Ouest.
« Basé en Afrique de l'Ouest, Olivier Fénérol se penche notamment sur le cas des jeunes migrants et les raisons qui les poussent à quitter très tôt leur famille. Selon l'UNICEF, 35 millions de migrants dans le monde ont entre 10 et 24 ans. Les filles, qui se dirigent majoritairement vers les villes, sont celles qui courent le plus de dangers, notamment en quittant le foyer familial, parfois dès leur plus jeune âge, comme l'explique Olivier Fénérol de Terre des Hommes.
Ça peut commencer très jeune. Pour les enfants domestiques, vous pouvez avoir des enfants de 4, 5, 6 ans. Pour les enfants qui apprennent un métier, 7, 8, 9, 10 ans, déjà vous avez des enfants qui sont placés et qui vont rester pendant des années loin de leurs parents géniteurs.
Et quand on parle de migration d'un pays à un autre, par exemple, c'est quelle tranche d'âge qui est principalement concernée dans ces cas-là ?
Les enfants qui vont aider, si vous voulez, une dame pour vendre au marché, ça peut être très jeune. Vous pouvez avoir des enfants de 5, 6, 7, 8 ans qui quittent leur pays pour se retrouver, par exemple, des enfants du Bénin, du Togo, qui vont se retrouver au Gabon. On a des enfants très jeunes. Après, si c'est pour faire des métiers plus de force, là, on va avoir surtout des enfants de 11, 12 ans. Mais ce n'est pas du tout exclu de trouver des enfants beaucoup plus jeunes. Ça dépend en fait de la communauté et de l'état de difficulté dans lequel se trouve la communauté. Lorsqu'on parle avec les enfants, on s'aperçoit que il y a plusieurs raisons qui sont combinées. Vous avez une raison qui peut être, disons, on va dire communautaire, familiale, qui relève de la solidarité ou de la logique familiale communautaire. Rapport à la pauvreté. Vous avez aussi des logiques beaucoup plus individuelles où l'enfant se dit « si je veux acquérir une place plus positive dans ma famille, dans ma communauté, il faut que je fasse l'expérience de la migration parce que c'est ça qui va m'accorder un certain prestige, qui va me donner aussi plus grande expérience. » Et puis vous avez carrément des enfants qui ont un projet bien précis, qui partent pour payer l'école parce que la famille ne peut pas le faire. Ou d'autres qui préparent leur mariage. Donc, d'âge de 12-13 ans, les filles préparent le trousseau de mariage et donc elles partent assez fréquemment et elles gagnent comme ça de l'argent qu'elles mettent de côté, permet de se marier quand arrive l'âge de 16 ans à peu près.
Ce qui m'intéressait aussi par rapport aux filles, c'est quels dangers elles encouraient quand elles migraient notamment de la campagne aux villes par exemple.
Les dangers qu'elles encourent dépendent des conditions dans lesquelles elles voyagent et de l'âge auquel elles voyagent. Plus elles sont jeunes, plus c'est dangereux parce que elles seront pas trop capables de se protéger elles-mêmes. Elles vont être dépendantes de l'organisation communautaire qui est autour d'elles. Si cette organisation communautaire n'est pas suffisamment resserrée, c'est une enfant qui peut se perdre. C'est-à-dire qu'on lui dit, voilà, tu vas aller jusqu'à cette ville, et puis à cette ville, tu demanderas à voir cette personne, et une fois que tu auras vu cette personne, elle te trouvera un travail, elle s'occupera de toi. Et l'enfant ne le trouve pas. Elle se perd. Et vous avez aussi la possibilité qu'elle subisse des abus sur la route. Vous avez aussi la possibilité d'être exploitée ensuite dans le cadre du travail. C'est-à-dire qu'elle trouve un travail, mais comme elle est jeune, la personne qui l'emploie se sent la liberté de faire travailler plus d'heures, la punir lorsqu'elle travaille mal, et l'enfant n'a pas de protection. Et puis vous avez ce qu'on appelle le trafic d'enfants, c'est-à-dire que l'enfant croit que les choses vont se passer comme on lui a promis, seulement elle se retrouve dans la prostitution ou dans le travail, mais dans des conditions terribles où personne ne sait où elle est. Éventuellement, des gens la vendent, c'est-à-dire qu'elle travaille chez une dame, et puis la dame, au bout d'un moment, vend l'enfant à une autre dame, et on perd de vue l'enfant. Et puis vous avez la maltraitance, c'est-à-dire les adultes qui s'énervent sur les enfants, qui les frappent, qui les torturent, qui leur font vraiment des souffrances psychiques ou physiques extrêmement graves. Et comme ces enfants ne sont pas suffisamment entourés d'attention de la part d'autres adultes, finalement, on ne sait même pas le drame qu'ils vivent. Et c'est lorsqu'ils fuguent ou lorsqu'un voisin finit par dire « Écoutez, j'entends l'enfant crier tout le temps, il y a quelque chose qui ne va pas ». C'est là que nous, on peut intervenir. Il est parfois très tard et l'enfant a déjà subi des séquelles très graves.
Voilà, et c'est avec ce témoignage d'Olivier Fénérol sur les enfants migrants que se referme ce magazine. Escale était consacrée cette semaine aux jeunes migrants ainsi qu'aux flux migratoires liés au changement climatique. Un magazine présenté par Léa Baron avec, à la réalisation, Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.